Là, d'ailleurs, je vous invite à acheter le catalogue, je le fais rarement, même si je suis content de tous les catalogues, mais dans le catalogue de l'exposition, chaque collectionneur explique pourquoi il a présenté cette œuvre-là. Et ce qui est assez inédit, et c'était très, alors pour moi, hyper enrichissant, parce que moi, ces œuvres-là, je les ai respectées dans l'accrochage, je pense, mais j'ai essayé parfois de les laisser à leur place tout en leur offrant un nouveau champ pour qu'elles puissent dialoguer avec d'autres. Mais elles appartenaient à quelqu'un qui avait décidé de les acheter pour une raison, souvent, et pour une partie du travail de l'artiste qu'il aimait. Et c'était vraiment génial de pouvoir lire à chaque fois qu'un collectionneur s'engageait en racontant pourquoi il défendait. On sentait, je dis défendait de manière facile, mais que non seulement il achetait une œuvre pour son bon plaisir, hein, quand je parle avec Yvon Lambert, c'est un acte très égoïste aussi, alors qu'il a donné toutes ses œuvres à l'État quasiment. Mais il me dit en rigolant, il me dit, je les achète pour mon bon plaisir, je veux les avoir, les regarder quand je veux, passer mon temps avec. Et ça, c'est une vibration totale. Bon, après, il les donne toutes. Alors, il peut venir ici pour les voir. Mais même si on ressent ça, on ressent aussi un engagement à défendre le travail d'un artiste. Acheter une œuvre d'art, c'est défendre le travail d'un artiste. C'est lui donner une partie d'un salaire. Et finalement, c'est lui permettre de continuer un travail qui a été engagé. Et ça, je trouve ça assez. Je ne pensais pas le rencontrer de manière aussi forte dans ce travail-là.
Non, c'était juste pour rebondir sur Yvon Lambert, qui a en effet cette relation avec les artistes aussi.
Oui, bien sûr.
Et il
Oui.
achète les œuvres aussi pour fréquenter les artistes et les voir travailler et travailler avec eux.
C'est très
Alors,
vampiriste, du coup.
ça, je vais vous dire, je connais la moitié des artistes, des œuvres que j'ai, mais je conseillerais de ne pas connaître les artistes. C'est bizarre ce que je vous dis.
Il y a des
Pourtant, je les
déceptions.
connais, hein. Mais quand vous connaissez un artiste, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très positif, vous entendez bien et tout, et donc quand il vous montre, moi j'achète pas aux artistes, moi j'achète aux galeries, mais quand il vous montre quelque chose à travers sa galerie qui n'a pas d'intérêt, vous avez du mal à répondre négativement. Et puis quand quelqu'un est un artiste grognon, grincheux, pas du tout intéressant, eh ben vous avez du mal. Alors que si vous ne le connaissez pas, c'est la pièce que vous jugez. Alors il faut se forcer pour dire, ah ben lui, il est vachement sympa, il faudrait quand même que j'achète quelque chose. Ou lui, ben non, mais c'est un emmerdeur, je vais rien acheter. Pour dire, non, j'ai besoin, j'ai envie, cette pièce s'intègre bien dans la collection, elle fera partie d'une série, ce sera un plaisir. Mais dans la réalité, c'est des mots que je dis, parce que je connais la moitié des artistes, quand ils sont vivants, c'est souvent le cas de ma collection.
Moi, je voulais savoir, par rapport à ce que vous disiez sur le ressenti pour l'art, que c'était éminemment personnel, quel est votre goût? Qu'est-ce qui vous touche quand vous rencontrez des œuvres? Pourquoi vous avez envie de l'acheter? Est-ce que c'est des supports, des techniques, ou est-ce que ça passe par autre chose?
J'ai une phrase d'une dame dont j'oublie le nom qui a habité longtemps la France au début du 20e siècle et qui a acheté beaucoup, Gertrude,
Stein.
voilà, et qui disait, j'aime les choses très simples mais avec une petite complication. Et moi j'aime les choses très simples et un tableau blanc. Me gêne absolument pas. Pourvu qu'il y ait quelque chose dans ce tableau qui soit un élément, un plus, un élément qui ajoute quelque chose, hein, quelque chose qui fasse vibrer. Par exemple, quand vous commencez le circuit, il y a une pièce où on voit un filet avec du sel qui est figé sur le filet.
Cigalit Lando.
Et voilà, Cigalit Lando. C'est une pièce qui appartient à ma collection. Cette pièce, je l'ai achetée parce que elle me rappelait toute mon enfance, qui à l'époque fréquentait la structure catholique. Et donc la mer morte, les pêcheurs, Saint-Pierre, enfin blabla, tout ça. Et quand j'ai vu cette pièce, à Venise. Je l'ai acheté chez Kamel Menour, qui à l'époque représentait cet artiste. Et cette pièce, elle est vibrante. Et en plus, c'est ce que je dis dans le catalogue, quand il y a de l'humidité, le sel capte l'humidité, et quand le temps devient plus sec, l'eau tombe et au sol, vous avez une petite flaque d'eau. C'est une pièce vivante. Voilà une explication, c'est une simplicité. Mais voilà le type. Mais en général, moi, ce que j'aime, c'est ce qui est conceptuel et ce qui est minimaliste. J'ai des tableaux avec de la couleur, hein, j'y échappe pas. Mais moins il y en a, mieux quand même, ça me plaît.
Merci.
Oh bah oui, parce que je suis collectionneur de tout. Alors, je collectionne des timbres, je collectionne des voitures, je collectionne des verres, je collectionne de tout. Et c'est le malheur de ma femme qui, elle, jetterait tout et attend mon décès pour tout jeter. Donc. Ah non, je suis. Ah oui, j'y collectionne petit, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah non, mais avant. L'art a été le support majeur, mais avant tout, je suis collectionneur. Si un jour on a le plaisir de se voir à la maison, je vous montrerai mes collections. Il y a des choses complètement idiotes, mais c'est le côté, ce que disait, qu'est-ce qu'il écrit là-haut ? Si une.
Ah, Laurence Wiener,
si voilà, une accumulation. Ben. Vous voyez, alors là, l'accumulation. Ah oui, mais.
Oui, la collection, il y a un choix éditorial.
Ouais.
Mais Laurence Wiener, la suite, c'est. J'ai fait exprès, c'est si une accumulation reflète une vie, la qualité de cette accumulation reflète la qualité de cette vie. Donc, de manière un peu pinçante et ironique, il dit ça à Yvon Lambert. Le collectionneur qui a envie de montrer sa collection et son accumulation, au bout d'un moment, se met en jeu. Et si on doit regarder la qualité de l'accumulation, on regarde la qualité de la vie de la personne. C'est ce qui est aussi assez intéressant.
Mais quand j'ai commencé à acheter, je n'imaginais pas, un, être collectionneur, deux, faire une collection. Ce n'est qu'après, avec le temps.
Et l'accumulation devient l'œuvre d'art.
Ça, on espère. On espère.
Mais c'est le dans la manière d'envisager le collectionneur, il y en a beaucoup qui s'envisagent comme des artistes qui n'ont pas pu être artistes et qui se découvrent artistes au travers d'une collection. Et Yvon Lambert, on l'a souvent appelé l'artiste anonyme.
Moi, c'est pas mon cas. Oui. Moi, je pense que j'admire les artistes, mais justement, parce que je les admire, j'irai jamais me confronter à eux. Jamais j'ai eu envie de prendre un pinceau ou de prendre quoi que ce soit pour faire. D'ailleurs, je n'ai jamais rien fait. Sinon, faire des calculs savants avec des chiffres, alors ça ne va pas bien loin.
Oui.
Oh, je suis devenu meilleur. Hein, j'en suis sûr. Compliqué la question que vous me posez. Vous voyez, je pense que mes lectures, tout à l'heure Stéphane disait les collectionneurs qui ont fréquenté des écoles d'art. Ça n'a pas été mon cas, mais moi j'ai beaucoup lu. J'ai amassé beaucoup de livres que je n'ai pas tous lus de la première à la dernière page, mais que j'ai lu, que j'ai regardé, que j'ai. Et donc j'ai voyagé, donc j'ai vu. Mais est-ce que ça m'a changé ? Oui, sûrement, sûrement. Si je m'étais intéressé, je sais pas moi, au football, au rugby, je préfère le rugby, seulement au rugby, je serais différent. Je serais différent. Collectionneur, la DIAF a permis d'éviter ça. Collectionneur, c'est quand même un individu, c'est individuel, c'est être seul. Alors avec la DIAF, les expositions, les prix, les trucs, a permis d'avoir ce côté groupe, on joue ensemble. Mais non, j'ai pas l'impression que ça m'a changé, mais ça m'a sûrement changé. Pardon ? Oui, des gens que j'ai connus très tôt, avec qui j'ai eu une affinité dès le départ, dans les années, début des années 90, c'est Fabrice Hibert et Philippe Parrainaud. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'ils sont devenus beaucoup trop chers, même si ce qu'ils font, surtout Hibert, n'est plus tout à fait à mon goût, mais j'ai une grande amitié pour eux, on se connaît bien. J'ai de nombreuses pièces, j'ai... Il y a des choses comme ça. Mais après, j'ai toujours essayé de faire des séries. Dans l'exposition qu'ils appelaient Engagement, que j'avais faite avec Pascal Farassi à Poitiers, c'était de montrer que des collectionneurs seniors, on s'était retrouvés 11, avaient, il y a 20 ans, suivi un artiste et aujourd'hui en suivaient un autre. Et donc ne restaient pas coincés sur quelqu'un dans le passé, mais avaient, avec l'évolution de la création, des évolutions. Par exemple, moi j'avais choisi... il y a 20 ans, Fabrice Hibert, et aujourd'hui, enfin c'était il y a 4 ans, David Douard. Bon, deux artistes qui avaient 20 ans d'âge de différence, et j'avais essayé, tenté de mener un engagement régulier avec lui. Je pense que c'est terminé, mais... c'est un peu comme les amours, hein. Il y a un début, un milieu et une fin. J'ai collectionné, j'ai acheté régulièrement Raphaël Denis. Il y a une pièce qui est montrée qui s'appelle Vernichette. Donc j'ai 6 ou 7 pièces de lui. Bon, aujourd'hui, on verra dans quelques temps, mais passons à autre chose. On est aussi infidèles. Eh ben, comme j'ai fait au début, j'achetais, quand j'allais dans des musées, des cartes postales. Et j'ai fait une collection des plus belles œuvres du monde, hein, avec des cartes postales. Non, je ris pas. Hein. Je ris pas, je peux. Ah oh, non.
Parce que, justement, dans l'exposition, il y a une salle entière qui est la collection de Daniel Bosser. Daniel Bosser, il a commencé à collectionner il y a, je pense, 35-40 ans.
En plus, oui. Mais il va venir, il expliquera.
Non, mais il a toujours dit une chose, c'est qu'il n'avait jamais dépensé plus que 3 mois de salaire. Il a une collection.
C'est pas mal.
C'est beaucoup, 3 mois de salaire. Mais c'est petit à petit, quoi. Et la deuxième chose aussi, c'est que...
Oui, mais Colette...
Non, mais je comprends.
Non, mais je pense qu'il faut être réaliste, il faut de l'argent. Et plus vous avez d'argent, plus vous faites une belle collection. C'est pas la peine de dire non. Voilà. Voilà. Non, non, mais maintenant que je suis retraité, j'aurai moins de moyens pour acheter.
Après, oui, c'est le choix parce que on en connaît plein aussi au musée à qui on demande des prix qui ont été amis du musée. Moi, je connais un couple d'enseignants de Toulouse qui ont acheté au tout début David Shrigley, Jonathan Monk, Douglas Gordon. Enseignants qui vivent dans une maison extrêmement modeste et l'exposition photographiée qu'avait fait Eric Mézil avec Yvon Lambert sur la photographie dans l'art contemporain au début du musée en 2002 ou 2003, il y avait les photos de David Shrigley, ça coûtait 300 euros. Ouais. Douglas Gordon, ça coûtait très peu d'argent au début. Alors après, il y a peut-être cette frustration, c'est que vouloir aujourd'hui collectionner une œuvre d'un artiste extrêmement établi, si on n'a pas d'argent, c'est complètement impossible.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il ne faut jamais vouloir s'épuiser.
Et là, l'argent
à acheter
est
des choses
total.
Trop coûteuses. Parce que d'abord, le temps a passé, et donc ce n'est pas vous qui le découvrez, mais acheter des artistes, pas obligatoirement qui sortent des beaux-arts, parce qu'il y a du déchet, hein. Mais des fois, on en trouve, clac, il y a un petit truc. Moi, David Douard, Je l'ai vu pour la première fois dans une galerie. C'était dans un coin et j'ai demandé ce que c'était. On me dit, ah ben, c'est un jeune artiste qui sort des Beaux-Arts, qui va sortir des Beaux-Arts. Il s'appelle David Douard. Ben, il dit, tu le vends combien? Il me dit un prix. Ben, je dis, ok, je l'achète. Quand je rentre, ma femme me dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc que tu as acheté, hein? Bon, ben, c'est David Douard, et David Douard, c'est un bel artiste. Et il est chez Crouzel maintenant.
Ah oui, donc, il a fait une expo pas de Tokyo. C'est... Oui, on parle avec lui pour ici.
Magnifique. Oui. Mais bien entendu, si vous voulez m'acheter quelque chose, Hélène, je vous le vends tout de suite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, un jour, je voulais avoir un Richard Long. Un Richard Long. Alors, je peux vous dire que Richard Long, au moins, c'est un truc qu'on ne vous volera pas. Parce que on les a transportés, là. Il y a 220 pierres, chacune au moins entre 10 et 20 kilos. Ça pèse quelque chose. Je voulais acheter un Richard Long. Et j'avais un très beau triptyque de... Comment il s'appelle ? Mexicain. Bon, enfin, je l'ai vendu et j'ai pu acheter Orozco. Orozco. Et j'ai pu acheter pour moi un Richard Long et pour ma femme un... Les petits tableaux, là. Un Macolone, voilà. Donc, on a acheté deux choses. Voilà. Mais... J'avais acheté, il y a longtemps, 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 Orozco, voilà. Mais non, 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 moi je vends, ça me fait de la peine, hein, ça me fait de la... Orozco, ça me fait de la peine. Mais je suis heureux tous les matins en me réveillant, je vais à ma fenêtre et je vois dans le jardin Richard Long. On ne l'a pas volé.
Après, chaque collectionneur est différent, mais il y a des collectionneurs qui ont une stratégie dans leur collection, parce que ça donne rien à leur vie, et il y en a qui, sur un artiste dans une exposition de galerie, vont acheter au minimum 3 pièces pour en avoir une qui prête, une qui garde, et une qui revende pour après nourrir la collection. Voilà. Mais après, les gens sont instinctifs ou pas, tout le monde est différent, mais c'est quand vous commencez et que vous pensez à nourrir après une collection... Tout se réfléchit, c'est vraiment des choses qui sont très, très complexes. Moi, je ne saurais pas faire ça. Mais...
Puis, il y a des fois des choses que vous avez achetées, par, comme ça, et puis qui se révèlent être un peu un canard noir dans votre collection. J'avais un Alighiero Boetti, qui était très bien, mais c'était la seule pièce que j'avais d'Arte Povera. Alors, ça faisait un peu ridicule, donc je l'ai vendue. Voilà. Ça, je ne parie pas sérieux quand je raconte ça.
Mais sur le plan de l'argent, ça force aussi les gens qui ont envie à se faire confiance et à faire confiance à leur goût et à aimer des artistes dont ils rencontrent les œuvres et qu'ils aiment pour ce qu'elles sont et pas pour des noms qui sont sur des... Le marché de l'art en France souffre de cette chose-là aussi, que les gens ont été moins confrontés que d'autres pays à l'art. En Allemagne, par exemple, les premiers achats se font très souvent à 18-19 ans, parce que les gens ont fréquenté l'art assez tôt, du point de vue de l'éducation, etc. Et ça ne leur pose pas de souci à 18-19 ans de dépenser 50 euros ou 100 euros pour acheter une petite carte, une petite chose d'un artiste. C'est un geste normal, en fait, de plaisir culturel qui se fait. Et du coup, vous achetez pas un Jeff Koons, mais vous achetez des petites choses qui peuvent être intéressantes par la suite. Et il me semble que c'est ce qui manque en France de dire aux gens qu'en fait ça n'est pas grave et que de suivre son cœur et d'acheter un travail qui a été réalisé par un artiste, c'est quelque chose d'aussi excitant que peut l'être notre achat différent.
Vous vouliez poser une question ?
Non, c'est ça serait faire une généralité, mais est-ce que vous pensez que les collectionneurs français sont moins dans la spéculation que les Américains, par exemple ?
Non, je pense que... Non, je crois que le tempère... Le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, mais la caractéristique des Américains, c'est que le rapport à l'argent est beaucoup plus facile. Moi, le nombre de fois qu'on m'a dit, combien vous dépensez chaque année pour votre collection ? La seule chose que je répondais, moins que les impôts que je paye. Donc, Bon, donc voilà, jamais je dirais, parce que soit je trouve que c'est un peu fat, un peu ramenard de parler d'argent quand on est français. Hein, mais les Américains, c'est pas le cas. Non, les Américains, ils vendent, ils achètent. Les Français, ils vendent, ils achètent. Vous savez, pardon ? Oui, vous savez, toutes les ventes que Arcurial ou Corneille de Saint-Cyr ou les deux grands, Christie's et Sotheby's, les pièces viennent bien de quelque part. Elles viennent parfois de réserves de galeries, mais le plus souvent de gens qui donnent tout ou partie. Par exemple, un collectionneur qui meurt, 2 ans après, sa veuve vend tout. C'est classique, hein? C'est ce que fera ma femme quand je serai mort. Mais non, mais moi, je peux, des amis collectionneurs, on dirait que plutôt que ça reste la passion des uns et peut-être pas obligatoirement la passion des autres.
Mais la spéculation, c'est quelque chose de, c'est un peu un fantasme.
C'est un fantasme.
Il faut avoir beaucoup d'argent pour spéculer dans l'art, et l'art contemporain, c'est quand même pas la valeur la plus spéculative. C'est même chez Jeff Koons ou quoi, mais c'est compliqué de miser de l'argent sur un artiste, un jeune, en s'imaginant qu'il va vous rapporter. Je pense qu'il vaut mieux acheter du vin. J'avais fait le calcul pendant un moment. C'est beaucoup moins risqué que d'acheter de l'art. Ou alors, il faut déjà être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et c'est des sphères qui après sont moins intéressantes pour moi. Parce qu'elles ne sont pas symboliques des achats du monde de l'art.
Parce que, vous savez, ce n'est pas facile d'acheter. Il y a une histoire, sûrement fausse, mais d'un journaliste qui va voir un grand collectionneur. Et le collectionneur fait visiter le rez-de-chaussée de sa maison, de sa grande maison, et montre des œuvres formidables. Et à la fin, le journaliste dit, écoutez, chapeau. Vraiment, vous avez une collection formidable. Et il dit, mais vous n'avez pas vu l'étage au-dessus, hein? Parce que obligatoirement, vous avez ce qu'on met au rez-de-chaussée, puis après, ce qu'il y a de au grenier. 20 ans après, vous avez beaucoup de déchets, hein? Vous n'achetez pas que des choses extraordinaires. Pourtant, vous les avez payées. Mais vous ne les revendez pas, celles-là.
Oui ?
J'aurais voulu jouer un truc, cacher les noms de tous les artistes à la FIAC, par exemple. Ils cachent les étiquettes. Je veux voir la réaction des vrais collectionneurs, ou des collectionneurs suiveurs, des collectionneurs snobs, des collectionneurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Voir vraiment l'authenticité d'un collectionneur qui va vers une œuvre, qui se fout de l'étiquette du nom et qui tombe en pavoison et en passant.
Oui, c'est sûr.
Vous avez l'air d'un collectionneur complètement authentique.
L'air.
Mais j'en
fous. L'air.
C'est pas juste l'air. Mais il y en a beaucoup qui sont.
Non, mais je voulais vous lire un petit texte que j'avais écrit parce que j'étais en colère au moment de l'exposition de Villeurbanne. Et dans le catalogue où j'écris toujours un texte, aujourd'hui, les temps sont autres, en parlant de l'art contemporain. Et bon, l'art contemporain est devenu un must pour un très grand nombre. Mais quel must ? Hervé Lovenbrug, galeriste parisien interviewé le 20 octobre, constate que la population des collectionneurs éclairés qui se tiennent informés visite les galeries, institutions et musées. Le week-end n'a pas disparu, elle est même restée stable. Il y en avait 500 en 1970, ils sont sûrement le même nombre aujourd'hui. Mais il y a presque 40 ans, ils représentaient la majorité. Tandis qu'aujourd'hui, ce groupe est dépassé par une horde, c'est moi qui écris, d'acheteurs motivés par la reconnaissance sociale que confère l'art contemporain. Ceux-là sont devenus majoritaires, ils veulent mettre 5% de leur avoir sur les murs et achètent de l'art contemporain, parce que c'est plus facile que du XVIIIe siècle. Il y a toujours une certaine presse pour leur expliquer que ça monte ou que ça baisse, et des galeries qui fonctionnent comme des labels. Roxana Azemi, chère Roxana, du 22, écrivait dans le quotidien de l'Art, daté du 22 octobre, en notant un autre travers de notre époque, l'utilisation d'advisors. L'enseigne, une galerie, a cédé une œuvre de Günther Forbe au patron de Zadig et Voltaire, T.G. Bon, vous pouvez chercher sur Internet, vous le trouverez. Via sa conseillère PM, ça je peux vous dire le nom, hein, si vous voulez. Peut-on envisager l'amour de l'art par procuration ? Et j'étais fâché à cette époque-là, parce qu'on voyait se développer une forme artistique, pas les artistes, pas la plupart des galeries, mais certains venaient acheter parce que ça faisait chic, parce que ça faisait beau, parce que c'était comme ça. Et il y en a beaucoup, et ça me rend un peu triste.
Mais le catalogue de passions privées, qui c'est une exposition vraiment fondatrice sur l'idée du collectionneur privé en France, était très très bien parce qu'il y a une quantité de textes, je me les ai tous relus, sur la sociologie du collectionneur, l'économie de la collection de l'art contemporain, enfin, et qui dresse en fait tout le portrait de ces choses-là où des sociologues, des économistes, des philosophes, des critiques d'art vont écrire et vont raconter tout ce que peut être un collectionneur. Et ils pressentent déjà à ce moment-là, mais on le sait que pour certains, la collection est, mais surtout depuis les années 80 et le boom de l'argent à New York.
Les années 2000, 2005, ça commence. Là, il y a une horde de gens. Et la FIAC, personnellement, je ne descends jamais au rez-de-chaussée à la FIAC. Je reste dans les étages et puis je vais voir autre chose. Parce que je suis attristé de voir des stands de Pérotin et de Nours que j'ai connus très jeunes, qui ont des petites galeries qui ont vraiment fait, et qui aujourd'hui sont devenues des galeries internationales, mais pour sûrement faire, comme on dit, leurs chiffres, bah, ils présentent des trucs qui, des fois, pleurent.
Mais Yvon Lambert, lui, a arrêté sa galerie à un moment où il le raconte, hein, c'est une galerie qui a très bien marché, donc c'est quelqu'un qui a du succès, mais où il dit, quand les collectionneurs commençaient à rentrer et me demander combien ça pourrait coûter plus tard, pour lui, c'était déconnecté du monde qu'il avait vécu, où il passait 3 heures à parler avec quelqu'un d'un livre, d'une œuvre et de quelque chose qu'il allait acheter, il espérait, mais qu'il ne lui demandait pas ce que ça allait coûter plus tard. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas la rançon du succès ?
Sûrement la rançon du succès, sûrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le circuit. Il y a beaucoup d'argent dans le monde. Donc les gens veulent faire leur musée et donc vont acheter. Bah, si c'est des œuvres de qualité, si c'est Antoine de Galbert et la Maison Rouge, bah, écoutez, on en voudrait 10 comme ça. Hein, même si aujourd'hui il a fermé. Il montre des œuvres là dans l'exposition. Mais des fois, en France, il n'y a pas grand-chose. Mais des fois, à l'étranger, on trouve des... Je n'ai pas d'argent placé chez lui, mais à Lille, là, Lille machin, là, où il y a une fondation. Comment il s'appelle ?
Ah non, Porquerolles.
À Porquerolles. Carmignac. Écoutez... Chacun ses goûts, hein. Quoi ? Ah, il y a des belles pièces, oui. Mais on n'est pas du même avis, vous voyez, donc... Bon. Est-ce que... D'autres questions ?
Moi, je crois qu'il y a des pièces qu'on aime, et puis des pièces qu'on trouve très intéressantes, mais pas forcément qu'on veut ou acquérir ou acheter. Il y a deux.
Vous êtes diplomate, hein? Non, mais moi, j'ai pas de.
La pièce de Fabrice Hibert que vous avez montrée tout à l'heure, moi, j'aimerais pas l'avoir chez moi, mais je la trouve intéressante.
Et ça se voit dans l'exposition là, c'est qu'il y a plein de collectionneurs, il y a plein d'œuvres différentes, il y en a pour tous les goûts.
Oui, mais il y en a pour tous les goûts, mais aussi pour les mauvais goûts. Et c'est ça qui est embêtant. Mais vous voyez, ce que j'ai souvent dit, je vais vous le dire, vous allez dans une librairie. Bon, à Avignon, il n'y a pas de grande librairie, mais à Lille, il y avait une grande librairie qui s'appelait Le Furet et qui avait 4 ou 5 étages. Quand vous, au sous-sol, c'était livre pour enfants, j'enlève. Au premier étage, il y avait des livres, je dirais, faciles. Musso, comment c'est l'autre que j'ai toujours dans... Lévy, j'ai mon collimateur. Et donc, c'est très bien. Moi, j'ai lu des Lévy. Musso, jamais, mais Lévy, je l'ai lu. Le premier, je trouvais que c'était intéressant. Mais c'est une littérature facile. Bon. Le prix Goncourt de cette année et de l'année dernière, je trouve, sont deux bons romans, deux bons livres. Alors, c'est dans un autre étage du Furet. Mais celui qui rentre, il a le droit, il a le choix, il a la liberté d'acheter ce qu'il veut. Moi, je peux me mettre... Il y a un endroit où on est presque en haut du Furet, regarder et critiquer. J'ai le droit de critiquer. Ça n'empêchera pas M. Carmignac d'acheter de belles œuvres. Voilà.
Oui, moi je pose ma tête, je
en tant que collectionneur, vous vous intéressez d'abord à la peinture, à la sculpture ou à la photo?
Alors, à rien de ce que vous avez dit, non, si, à tout ce que vous avez dit, j'ai de la peinture. J'ai des sculptures, j'ai des photos. Mais ma passion, c'est quand même les installations. Voilà. Donc, des choses comme le bibendum, là. Hein, vous voyez, ce machin. Voilà. Et alors, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Le mieux, je vais vous dire, le mieux, c'est la peinture. D'abord, parce que c'est un médium qui a une histoire. Hein. Puis la grotte Chauvet jusqu'à aujourd'hui, il y a de la peinture. Et un clou, on l'accroche au mur et il tient. Après, le reste, c'est plus compliqué.
Les masques de Théo Mercier, c'est plus compliqué. Oui.
Voilà, par exemple. Par exemple. Hein, je ne sais pas, je vais juste pièce où il y a un amas de masques.
Mais je rebondis pour finir, mais ça montre que être collectionneur, c'est aussi quand on avance dans sa collection, et comme dans le cinéma, comme dans la littérature, plus vous avancez, plus vous voulez être poussé dans vos retranchements, plus vous voulez être pointu, plus vous voulez ne pas comprendre, etc. etc. Et donc plus on regarde des fois du haut vers le bas. Mais surtout, c'est vraiment se mettre en confrontation permanente avec des œuvres. Et l'installation, du coup, c'est assez drôle parce qu'on se met physiquement en confrontation. On se confronte à la peinture, à la photo, à tout ça. Hein. Ce sont des images qui sont marquantes et qui sont parfois très physiques. Mais l'installation, c'est s'imposer un objet volumineux dans son environnement avec son propre corps. C'est ce que j'aime dans l'art minimal.
On peut tourner autour.
Oui, mais ça impose vraiment la confrontation. Et je crois que c'est ça, c'est aimer se confronter à des objets, à du sensible, à des images en permanence. Moi, c'est ce qui me plaît dans l'idée d'avoir vu tous ces collectionneurs comme ça dans les choix qu'ils ont proposés.
Il y a un mot d'Antoine de Galbert qui dit « On devient collectionneur le jour où on achète l'œuvre qu'on ne peut plus installer chez lui. » Moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si l'œuvre que j'achetais, je pouvais le mettre entre deux fenêtres, s'il y avait juste l'emplacement. Et ça ne m'a jamais posé de problèmes métaphysiques, même si après, il y a des choses qu'on ne peut pas installer. Hein. Bon, ben on les installe pas. On les prête, et comme ça, on les voit. Bon. J'ai un grand café, avec des tables, des chaises, un téléviseur, des trucs, des bidules. Vous pouvez installer un café de Rikri Tiravanija. C'est une folie, ce truc. C'est grand, c'est volumineux, c'est J'ai une piscine de Boursier-Mougenot. C'est impossible à installer que dans un musée. Mais je me suis, quand je me suis pas, j'ai pas voulu me limiter dans la forme en me disant il faut que ça rentre à la maison. Mais on vient de déménager là, on avait une maison de vacances, on est dans une maison plus grande, mais une des premières caractéristiques, c'est qu'il y ait des dépendances pour pouvoir mettre la collection.
Eh bien, merci.
Grand merci.